Vous écoutez
Montréal par la racine. Écoutez toujours Montréal par la racine sur les ondes de CIBL 101.5 Radio Montréal. Et devant moi, j'ai Patrick de Bortoli, donc Monsieur Fermier Antique, comme on le disait en introduction d'émission, qui revient d'une fin de semaine intensive de formation sur la santé des sols, la microbiologie des sols.
Oui.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Ça a été beaucoup de matière, j'imagine.
Énormément de matière.
Matière organique,
oui,
principalement.
Principalement. Et donc aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était tout un défi d'essayer de synthétiser tout ça. Mais l'idée aussi, c'était vraiment d'essayer d'introduire nos auditeurs à ce qui se passe un petit peu dans la vie du sol. Et je vais aussi montrer que les horticulteurs et les jardiniers urbains, pendant l'hiver, même s'il fait moins 20 à l'extérieur, ça ne veut pas dire que nous, on est en dormance. Donc, on va en profiter pendant le mois de janvier, par exemple, qui est le mois des semences. C'est le temps de commander les semences pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et de commencer à imaginer ce que nos potagers vont avoir l'air tout doucement au printemps qui s'en vient. Et durant l'hiver, donc, on va aussi en profiter pour parfaire un peu nos connaissances en lisant quelques livres puis magazines spécialisés, puis en suivant des formations données ici et là, comme aujourd'hui, je viens précisément parler de cette formation que j'ai suivie en fin de semaine. Et donc, j'exploite, comme je vous ai dit, cette formation-là pour vraiment venir introduire les gens au sujet central de cette conférence-là et un sujet qui me passionne énormément, c'est la vie du sol. Parce que, alors qu'on conçoit souvent, et déjà depuis trop longtemps, le sol comme une matière minérale inerte qui s'utilise principalement comme un support physique à une plante ou une culture, puis à laquelle nous contribuons des apports d'engrais synthétiques, mais les travaux de Mme Ingham au cours des 20-30 dernières années ont finalement réussi à infiltrer nos consciences modernes pour nous aider à voir et à considérer la part vivante du sol. Parce qu'en fait, si le sol n'est vu que comme étant uniquement composé de particules de sable, de limon et d'argile, alors, à mon sens, on ne parle pas véritablement de sol. On parle de matière inerte. Et j'aime beaucoup la distinction qu'on fait en anglais entre le mot « dirt » et le mot « soil ». Le mot « dirt » étant vraiment cette matière inorganique et « soil » qui a une connotation de quelque chose de proprement
vivant,
oui. Et comme j'aime le dire, ce qui devient de plus en plus important et clair à mon sens comme horticulteur amateur et professionnel, c'est moins de cultiver des plantes que de cultiver du sol. Et chez moi, c'est précisément ce que j'essaie de faire. Je fais pousser de la vie dans mon sol, qui lui s'occupera en retour, dans une belle danse symbiotique avec le monde végétal, de m'assurer d'une abondante récolte en fin de saison.
Et est-ce que tu veux nous parler justement d'un peu plus en quoi consiste cette vie dans le sol? Qu'est-ce qui se passe de vivant?
Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime commencer par imager les choses. Donc, j'ai quelques chiffres ici qui, en tout cas, moi, m'ont fait tomber sur ma chaise, de ma chaise.
Alors, on avait une petite introduction musicale. C'était pour voir si les gens suivaient.
Je pense que Marc-Étienne était tellement enthousiaste à t'écouter qu'il a mis un accord en écho.
On y va? C'est bon? Excellent. Donc, saviez-vous que sur la surface équivalente d'une tête d'aiguille, d'un sol sain, on s'entend, on retrouve plus de 250 000 micro-organismes, puis que dans un gramme de sol, l'équivalent d'une cuillère à thé, de sol sain fourmille plus d'un milliard d'êtres vivants microscopiques qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à assurer la vie sur Terre. On peut imaginer aussi un arc de terre et sur cet arc de terre, on peut récolter, et là je parle en poids, 900 livres de vers de terre d'arthropodes qui sont des insectes, des araignées et des algues, environ 2000 livres de bactéries et 2400 livres de champignons. Ça, ça en fait de la vie dans le sol, ça en fait de la biomasse.
Ça fait du monde, oui. Ouais. Puis justement, j'imagine que chacun de ces êtres vivants-là a un peu son rôle à jouer. Là. On a comme un orchestre
tout à fait.
Dans le sol.
Tout à fait. Et comme tout être vivant, ils cherchent à survivre et à se reproduire et donc sont activement à la recherche de nourriture. Et où la trouve-t-il, cette nourriture? Bien, essentiellement à deux endroits. Je schématise un peu pour le besoin de la cause, mais dans la matière organique et minérale du sol. Et j'entends par là les feuilles tombées des arbres, le bois mort, le tissu des plantes mortes, les résidus d'animaux et d'insectes, etc. Et pour ce qui est des la partie minérale du sol, les particules de sable, de limon et d'argile, mais aussi des plantes. Puis on a souvent l'impression que les plantes sont des sujets un peu passifs dans nos jardins et potagers, mais il s'avère en fait qu'ils en soient véritablement les chefs d'orchestre. Parce qu'une bonne part de l'énergie produite par les plantes par le biais de la photosynthèse est utilisée par ces plantes-là à produire des sécrétions qu'on appelle des exsudats, qui sont principalement composés de glucides, de protéines et de sucres qui vont attirer les micro-organismes et les nourrir. Dr. Ingham, elle aime en parler en disant, bon, les glucides, dans le fond, c'est de la farine, les protéines, c'est les œufs, le sucre, ben, c'est notre sucre brun, donc ce que font les plantes, sont en train de distribuer des petits gâteaux alentour d'elles, tout près de leurs racines, pour attirer la vie. Donc, on va regarder de plus près les bactéries, les plus petits organismes du sol qui se retrouvent tout en bas de la chaîne alimentaire. Les bactéries, avec les champignons d'ailleurs, sont littéralement les dents de la nature. Ils vont décomposer la matière organique et minérale à l'aide d'enzymes et d'acides et vont extraire tous les minéraux présents dans cette matière organique et minérale et les exsudats, comme on a vu, des plantes, et les emmagasiner dans leur corps. Ils deviennent du coup des petits sacs d'engrais ambulants. Et les protozoaires et les nématodes, qui sont sensiblement des micro-organismes plus gros que les bactéries, vont ensuite gober ces bactéries et les champignons et, une fois digérés, vont répandre les minéraux ou les engrais, si vous voulez, par leurs excréments directement dans la rhizosphère, près des racines, sous forme d'éléments nutritifs, cette fois assimilables par les plantes et qui, on l'a vu, les avaient attirés là par les exsudats. Pour précisément cette raison. Alors, les micro-organismes, à ce moment-là, sont en train d'exécuter deux fonctions essentielles. Minéraliser, c'est-à-dire donc prendre la matière organique et minérale et transformer les minéraux en éléments nutritifs assimilables par les plantes. Et aussi, ils vont immobiliser ces éléments nutritifs-là dans leur corps pour éviter qu'ils ne soient lessivés et qu'ils partent avec les pluies et l'arrosage dans les nappes phréatiques.
Donc, vraiment, une vie microscopique assez impressionnante, comme on dit. Hein? C'est tout orchestré, chaque chose est organisée. J'ai l'impression que tu as même plus que ça à nous dire, un peu sur la vie du sol.
J'en ai tellement long
fébrile.
À dire.
Ouais.
Ah, parce que je dois mentionner les autres fonctions de cette vie microbienne qui est avantageuse pour le jardinier. Par exemple, les bactéries, étant donné leur petite taille, pour éviter d'être lessivées, elles aussi vont produire une substance collante qu'on appelle un biofilm, qui leur permet de rester attachées aux particules du sol. Puis ce faisant, il y a d'autres particules minérales et organiques qui vont se coller à cette glue-là, qui vont s'agglomérer pour former ce qu'on appelle des micro-agrégats. Et ça, les micro-agrégats, c'est, dans le fond, c'est des petites boules de sol qui permettent du même coup une adéquate porosité du sol. Ça va assurer le passage plus aisé de l'eau et de l'air entre les particules, qui sont deux choses absolument essentielles pour les plantes. Et les champignons, eux, vont continuer le travail. Avec leurs longs ifs, vont aller chercher, enfiler chaque micro-agrégat, les attacher ensemble pour former des macro-agrégats, des plus grosses boules, qui, eux, sont un gage supplémentaire d'une bonne structure de sol, capable de retenir l'eau et aussi de garantir le bon drainage du sol. Il faut aussi que je mentionne, quand je parle de champignons, là, il ne faut pas s'imaginer que je parle ici des petites excroissances qu'on voit sur le tapis des forêts ou dans nos assiettes. Cette partie-là, c'est la partie fructifère du champignon. Mais le champignon, lui, est principalement composé d'ifs microscopiques qui sont des longs, longs filaments qui peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres. Et 90 à 95 % des plantes vont même former des alliances symbiotiques avec certaines espèces de champignons qu'on appelle des mycorhizes qui, en échange de sucre, vont prendre le relais des racines et s'étendre pour aller chercher des éléments nutritifs qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas à proximité des plantes. Puis ce faisant, ben ils creusent des galeries parallèlement aux vers de terre qui vont ameublir le sol de notre potager. Finalement, les bactéries, les champignons qui se massent près des racines, donc ils vont se coller sur les racines et les poils absorbants des racines, puis assurer non seulement un apport en éléments nutritifs, mais ils vont former tout autour d'elle une sorte de château fort qui va protéger la plante des autres micro-organismes pathogènes et assurer donc la santé générale de nos plantes. Et je dois quand même terminer en mentionnant les bactéries fixatrices d'azote qui vont rendre l'azote de l'air, l'azote qui est un élément nutritif des plus essentiels à la croissance des plantes, assimilable aux plantes en le fixant au sol, soit directement dans le sol, ou d'autres espèces de bactéries, les rhizobiums, en travaillant en symbiose, elles aussi, avec les plantes de la famille des légumineuses. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'aurais aimé en dire davantage, mais peut-être dans une prochaine chronique, je viendrai pour parler de comment on fait préserver puis entretenir cette vie microbienne dans le sol.
Comment on met en action,
oui,
justement,
exactement,
tous ces mécanismes.
De façon plus pratique, hein, avec l'apport de compost, de paillis au sol. Mais pour l'instant, retenons seulement ceci. cette vie microscopique, le sol est bien vivant. Cette vie microscopique permet de retenir les éléments nutritifs essentiels à nos plantes dans le sol. Elle permet également d'assurer une excellente structure de nos sols, une bonne aération, un bon drainage, une bonne rétention d'eau. Et donc, nous reste-t-il à faire comme jardinier, observer et apprendre de la nature, faire croître notre respect à son égard, puis attendre de récolter en fin de saison sa généreuse abondance.
Et observer qui est le premier principe de la permaculture.
Absolument.
Justement, s'inspirer du fonctionnement de la nature.
Voilà.
Ce segment fait partie d'une série radiophonique produite dans le cadre de l'Année internationale des sols. Il a bénéficié du soutien de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture qui célèbre son 70e anniversaire en 2015. We'll be right back.